Bah du coup peut-être qu'on peut ouvrir le temps de l'échange. On a encore quelques minutes. Si vous voulez bien poser des questions, vous pouvez soit lever la main dans vos petits écrans comme on a fait hier et qu'on a fait. Sinon, je commencerai moi-même. Peut-être je me permets de lancer la discussion. Dans ces exemples qu'on a vus, dans les trois premiers, mais c'est quelque chose qu'on peut même retrouver aussi dans ces deux exemples de médiation, il y a quelque chose qui me semble important, on l'a dit à d'autres moments, c'est cette mise en avant de l'intime. Ça, soit dans le cas, par exemple, du feu d'artifice performative qui Elisen nous a proposé, où à la base, c'était une expérience privée. Enfin, c'était sa fête d'anniversaire. Aussi, ces expériences à partir de fenêtres qui est finalement une porte d'entrée à l'intime de chaque. De chaque maison, en fait, de l'intimité de chacun et comment ça s'est utilisé comme cadre de théâtre dans cette analyse qu'Armel nous proposait, et pour après arriver à une, comment transposer cet intime artistiquement dans les différentes propositions que Songa il nous a évoquées. Et du coup, je voulais vous poser cette question est-ce que cette rapport, cette place de l'intime est quelque chose qui est plus propice pour ce type de dispositif qui sort du cadre habituel de l'espace scénique, ou cette présence de l'intime est due à ces moments particuliers du confinement, ou bien non, pas du tout, l'intime y a été toujours là. Enfin, c'est un peu les trois réponses, je pense. Mais qu'est-ce que vous en pensez de cet rapport entretenu avec l'intimité et sa mise en scène qu'on a parlé pendant toutes ces tables?
Je veux bien prendre la parole, mais je ne sais pas trop quoi dire. Je n'ai pas suffisamment réfléchi. Après, c'est de l'intime extimisé au même titre que l'intime que vous voyez là derrière, qui veut dire tout et rien. Enfin, la fenêtre, pour moi, a un peu un statut très, très différent et en même temps très parallèle avec l'ouverture enfin, la fenêtre de l'écran et la façon dont on peut voir un petit peu de chez soi derrière l'individu qui s'exprime, et en même temps, pas beaucoup non plus, quoi. Mais là, je suis en train d'improviser une réponse très peu convaincante, puisque j'y ai tout simplement pas très réfléchi. Et que moi, ce qui m'a plutôt intéressé, c'était la dimension très performative et très théâtrale de ce qui constitue une scène. Et à la rigueur, j'ai hésité à les montrer, mais bon, vous avez vu que déjà, il y avait un peu trop de documentation, mais j'avais d'autres exemples que je trouve très beaux et très touchants, où on voit, donc qui touchent encore les usages sociaux, hein, des fenêtres et des balcons, où on voit beaucoup des gens qui communiquent par fenêtres interposées, des parents qui téléphonent, ils sont l'un en face de l'autre, mais il y a la fenêtre qui les sépare, et ils se parlent au téléphone. Et bon, c'est évidemment très, très touchant. Et en même temps, ce que je me disais beaucoup en voyant tous ces exemples, c'est à quel point cette crise sanitaire nous amenait tous à devenir très, très conscients de ce que peut un corps quand il est espacé d'un autre corps, quand il est séparé par lui, par un masque ou par un écran, ou que la voix, c'est une voix qui est filtrée électroniquement, alors que le corps, on le voit en direct. Enfin, on fait des expériences théâtrales permanentes avec cette crise, parce que c'est une crise très sensible. Il y a des accessoires, il y a du masque, il y a de la chorégraphie, il y a des files d'attente, il y a la nécessité de devoir laisser plusieurs mètres les uns entre les autres. Et donc, je ne réponds pas du tout à la question, mais enfin, voilà, moi, c'est ce qui me frappe depuis que j'y réfléchis à ce qui est en train de se passer. dans nos têtes et dans nos corps. Et c'est pour ça aussi que les arts vivants ont quelque chose à nous en dire particulièrement. C'est à quel point on vit une expérience sensible et qui nous rend presque experts, qui nous dote d'un savoir sur ce que peut un corps par rapport à un autre corps en termes d'écoute, de visibilité, de proximité, de distance. Enfin, voilà. Mais du coup, je suis plus sur le... je suis pas du tout à l'endroit où tu poses ta question.
Alors, peut-être si je peux me continuer sur la question de l'intime. Alors, c'est vrai que, comme je le disais, dans un premier temps, on a été assez détachés parce qu'on se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire pour solliciter les spectateurs. Et il se trouve qu'à un moment donné, il y a eu notre syndicat des scènes nationales qui lançait un appel à mobilisation pour rappeler la réouverture des lieux de culture. Et dans ce cadre-là, on avait contacté des spectateurs pour qu'ils prennent la parole dans le cadre d'une vidéo pour nous raconter leurs souvenirs de théâtre. Et en fait, on a été assez bluffés, même hyper touchés, parce qu'on a rencontré une dizaine de spectateurs qui tout de suite ont dit oui et sont venus au théâtre. Et en fait, avec beaucoup de pudeur, mais sans réserve, ils nous ont raconté leurs meilleurs souvenirs de théâtre, ce que ça représentait pour eux, tout ce que le théâtre, tout ce qui leur manquait du fait de ne plus venir au théâtre. Et c'est des choses qu'on a ensuite diffusées sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et également sur le parvis du théâtre, sur notre écran. Et voilà, les spectateurs étaient sans filtre et n'avaient aucune peur pour se dévoiler et dire davantage ce que ça représentait, même si c'était très intime.
Oui, je viens de vous envoyer justement une vidéo sur YouTube avec un recueil de tous ces témoignages pour si vous voulez le voir. On n'a pas eu le temps pendant l'échange, mais la vidéo, elle est là si vous voulez la voir. Élisène, tu veux nous dire quelque chose par rapport à cette performativité de ton anniversaire? Comment on t'arrive à former un événement privé, de quelque chose de complètement intime comme ton anniversaire? Quelle est la démarche qui t'amène vers cette proposition performative? Si tu veux contextualiser un petit peu plus l'expérience qu'on a vécue tous tout à l'heure.
Oui, volontiers. Oui, en effet, ça donne du coup des pistes aussi pour répondre à la question que tu posais juste après. Moi, je fais donc depuis longtemps des performances en appartement et il a été beaucoup question de performances en appartement depuis hier, ou performances ou théâtre en appartement ou dans le salon, ce qui a été aussi distingué hier. Donc c'est vrai que je me pose pas tout à fait cette question intime par rapport à cette performance feu d'artifice, parce qu'en plus c'était dans le jardin puisqu'on était confinés. En fait, le seul lieu où on pouvait rencontrer les voisins, c'était la cour ou le jardin commun de cet appartement. Non, je crois que je me suis pas vraiment posé cette question en termes d'intimité. Ce que j'ai remarqué à cette occasion là c'était combien en fait je trouvais cette création extrêmement riche pour vivre quelque chose à cause... Enfin, on est tous, en fait, on était tous réunis par cette frustration de spectaculaire dans notre quotidien, frustration de spectacle, frustration de feux d'artifice, parce que les feux d'artifice étaient aussi interdits. Bon, on n'était pas du tout le 14 juillet, mais il y a un peu toutes ces choses qui se mêlaient dans notre imaginaire d'être privé de spectaculaire. Et d'un coup, des personnes proposaient un dispositif qui nous mettait tous en scène et tous acteurs participants à quelque chose qui jouait sur l'illusion et qui, un peu par magie, par l'illusion, nous faisait croire à quelque chose qui était encore plus spectaculaire qu'un feu d'artifice que finalement on connaît assez bien. Et c'est vraiment ça, pour moi, là, il y a eu quelque chose de l'ordre de l'émerveillement, de voir que quelque chose était créé qui était en fait beaucoup plus puissant du fait qu'on participait tous ensemble à quelque chose qu'on voulait absolument voir, qui n'était pas possible de voir. C'était ça que je voulais absolument recréer avec vous. Et alors, juste par rapport aux commentaires de tout ce qu'on a fait tout à l'heure, je vous remercie vraiment beaucoup de vous être prêté au jeu. C'était compliqué, en fait, je trouve, cette expérience, parce qu'il y avait... Enfin, merci énormément à Julien, Ariana, Nathalie, d'avoir rendu tout ça possible. Après, je crois vraiment, et je suis désolée d'apporter un peu cette note lors de ces journées d'études, mais je crois que je suis vraiment inconsolable, moi, que tout ça ait lieu en Zoom et inconsolable qu'il n'y ait pas plus de vivants et très triste de ne pas vous rencontrer pour de vrai, en fait. Donc, j'ai bien en tête le fait qu'il faut absolument se consoler et redevenir maître des outils qu'on a à disposition. C'était, je crois, je ne sais plus qui hier disait, peut-être Marion Boudier, qui est là aussi en ligne, je crois, aujourd'hui, qui citait Bernard Stiegler, une citation que je ne connaissais pas, mais justement sur laquelle j'aurais bien aimé avoir la référence, qu'il fallait absolument se saisir des instruments qu'on a à disposition pour ne pas les subir. Donc, les surinvestir peut-être ou les maîtriser à fond pour ne pas en être le jouet. Et donc là, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire. Mais malgré tout, en fait, je rêvais vraiment de ce moment où il y aurait eu comme un chef d'orchestre, des personnes qui allaient en fait se risquer à faire des choses. Je nous voyais à l'écran. En fait, c'est des moments de performance, je trouve, où on est un peu sur le seuil ou sur la brèche du ridicule. Ça peut être complètement ridicule, comme ça peut être magnifique. Comme dans la vidéo, on le voit, et moi, je trouve que c'est vraiment magnifique dans la vidéo. Là, sur Zoom, je n'ai pas assez de recul, donc je ne peux pas dire. Il y a quelque chose qui est magnifique dans le fait que tout le monde ait saisi un objet et l'effet, et ce soit vraiment risqué au ridicule, et ça, je trouve ça fantastique. Et on en parlait hier dans la salle café. Enfin, j'aime énormément quand tout le monde prend le risque au ridicule, et c'est génial. Et après, je ne sais pas quel est le résultat parce que j'étais trop dedans. J'espère que c'était un peu bien, qu'en tout cas, il s'est passé quelque chose. Mais j'aurais aimé vivre cette prise de risque, évidemment, en direct. Ça m'aurait énormément, je crois, nourri dans ma joie, en fait, simplement. Voilà.
Et je comprends ton point de vue. Et en même temps, j'ai envie de te dire, c'est de l'ordre de l'expérientiel, c'est-à-dire et l'expérience pour les personnes qui ont participé et aussi pour toi que tu as proposé cette... façon-là, en plus avec toute l'adaptation que ça a demandé, parce qu'effectivement, il y a une semaine, même pas, on n'était pas censé être sur Zoom, donc ça, c'est aussi assumer le risque d'une certaine incontrôlable. Mais je pense que ça fait du bien aussi, dans ce contexte où on en parle beaucoup, et on est face à face, et parfois face à un écran noir, et du coup, ça change. Et juste pour ça, ça vaut la peine de l'essayer. C'est juste mon avis comme ça. Et du coup, je donne la parole à Julien qui a la main levée.
Merci. Oui, merci pour toutes ces interventions très complémentaires et passionnantes. Et là-dessus, je te rejoins complètement, Elisène, sur cette double perception, en fait. Il y a à la fois le fait de se rendre compte qu'on essaye d'y arriver et de faire ensemble. Et puis, il y a l'action réalisée et l'œuvre, en fait. Bon, et c'est vrai que pendant ces périodes de confinement, dans tout ce qui était distanciel, il y a eu comme ça une émotion qui n'était pas là où on l'attend d'habitude. Et que je me suis retrouvée à participer à des expériences à distance qui étaient très émouvantes. Mais pas parce qu'on arrivait à un résultat qui était magnifique, mais parce qu'il y avait une telle volonté et une telle envie de tout le monde de réussir que ça provoquait de l'émotion. Et que finalement, ça aurait été plus simple, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette émotion du tout. Et je pense que c'est la difficulté de réussir à essayer de faire, enfin, de réussir à faire quelque, enfin, d'essayer de faire quelque chose qui fait que du coup, on est dans un distanciel frustrant. Et ça me semble essentiel, le côté frustrant d'un distanciel, puisque c'est un distanciel qui nous donne envie de nous retrouver. Et c'est quand même complètement différent d'un distanciel numérique fascinant où on est complètement absorbé par le dispositif qui fonctionne tellement bien qu'on oublie le dispositif et donc qu'on oublie qu'on est privé de la coprésence. Je voulais juste dire ça en rebond. Et puis après, je me demandais si au niveau des lieux, il y avait au cours de ce confinement et arrivé beaucoup l'idée de « il ne faut pas perdre le lien avec le public ». Moi, j'entendais beaucoup ça dans les équipes de médiation ou direction des lieux. Il ne faut pas perdre le lien avec le public. Donc, on va mettre en place des choses pour ne pas perdre le lien avec le public. Et en même temps, il y avait peut-être la peur aussi, je ne sais pas, de donner l'habitude au public de se satisfaire d'une offre culturelle qui ne leur coûterait plus l'effort de venir dans le lieu. Et que parfois, il y a des lieux qu'on préférait ne pas organiser de substitut, finalement, à la présence dans le lieu. Et donc, je voulais savoir ce que vous, vous en pensiez, peut-être, peut-être plutôt Alexandre Minel et Lila Giraud, mais aussi Sunga Kim et Armel Talbot dans les initiatives que vous avez pu identifier, qui ne sont peut-être pas forcément l'initiative des lieux. Voilà, de rebondir là-dessus.
Bah alors, par rapport à ce que tu dis, Julien, alors c'est vrai que, bah comme je le disais tout à l'heure, nous, au cours du premier confinement, on s'est mis en retrait et on n'avait pas cette obsession de vouloir à tout prix maintenir le lien avec les spectateurs. Parce que déjà, d'une part, on était quand même malgré tout beaucoup en lien avec eux pour des questions de billetterie. Parce que c'est vrai que chez nous, on a un suivi assez personnalisé de tout ce qui concerne le remboursement des billets. Donc, tout se passait par mail et par des formulaires dédiés. Il n'y avait pas de remboursement automatique. Donc, on échangeait beaucoup avec eux à ce moment-là. Et d'ailleurs, on les remercie parce que sur la période de mars à mai 2020, on a dû avoir un tiers de billets qui n'ont pas été volontairement remboursés du fait de la générosité des spectateurs. Et c'est vrai que on s'est fait le constat en se disant que nous-mêmes, en tant que, bah, que humains, on est très même si on était tous confinés, on était tous hyper sollicités parce que le télétravail, malgré tout, a fait qu'on a souvent été des machines de travail du matin jusqu'au soir. Alors moi, je n'ai pas d'enfants, mais pour les personnes qui ont des enfants, voilà, il y avait aussi beaucoup d'autres choses à régler. Et on s'est dit, est-ce que nous, notre rôle, c'est de venir assommer de nouveau le public avec des nouveaux contenus qui ne sont peut-être pas forcément très pertinents, mais qui rajouteraient peut-être une pollution en plus par rapport à tout ce qu'ils peuvent recevoir par ailleurs. Enfin, on a vraiment voulu rester discret à cet endroit-là. Et c'est vrai que, voilà, Chalut, il y a certains théâtres comme La Colline qui ont eu des initiatives continues durant toute la période, avec notamment des vidéos, des textes écrits par leur directeur. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, on avait l'impression qu'il y avait un peu une débauche de qui aura la meilleure idée. Et bon, on s'est dit qu'on n'avait pas forcément matière à rajouter très pertinente.
Moi, si je peux dire un truc pour Anigra, je trouve que déjà, il y a quand même deux moments... dans la pandémie, il y a ce premier confinement où tout à l'heure je parlais un peu de espèce de blackout où effectivement nous, il y avait certaines personnes de l'équipe qui avaient vraiment envie de ce lien-là avec les publics, qui voulaient qu'on fasse une liste de recommandations un peu comme finalement a fait l'avant-scène avec quoi regarder, nos petits conseils et tout. Bon, en fait, très vite on a abandonné l'idée et on est en lien avec des personnes très proches du public d'Anigra, qu'on accompagne, notamment des personnes âgées qui viennent beaucoup dans le lieu, qu'on a appelées pour savoir comment elles allaient. Et après, par contre, à partir de la nouvelle saison, de la saison suivante, en septembre 2020, là, il y a eu une envie, mais pas forcément de maintenir le lien. Enfin, si, mais surtout de faire quoi. Là, ça va, ça fait 3-4 mois qu'il ne se passe plus rien. Maintenant, on réfléchit à qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à travailler, à avoir du monde, à occuper les gens, à occuper les artistes. Voilà. C'était plus dans une réflexion, il faut qu'on fasse quelque chose parce que sinon on va tous devenir dingues. Là. Plus ça, je dirais.
Sunga, tu voudrais...
Oui, enfin, je peux parler un peu. Mais je voulais juste rebondir par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure par rapport à l'intimité. Ça, c'est pas théoriquement, j'ai quelque chose à prouver, mais personnellement, ce genre de petite forme, l'intimité, quand je expérimente ce genre de participation, il y a le manque de, justement de groupes de regardants qui ne sont pas là. Donc, moi, je peux vraiment entrer en discussion avec ce petit nombre. Donc, est-ce que ça aussi, ça peut peut-être être un des éléments, en fait, il peut arriver un petit peu plus de profondeur en discussion. Et parallèlement, c'est ce que j'ai pensé, parce que tout le monde essaie de créer, en fait, d'autres formes de théâtre alternatives, soit déjà les compagnies qui ont... déjà cette forme-là, sans trop changer leur méthode, et soit d'autres compagnies qui essayent de trouver un moyen à distance ou avec le numérique et tout ça. En tout cas, par là, c'est ce que je vois, en fait, la crise qui nous permet de révéler l'importance de biodiversité du théâtre. Un peu. Parce qu'en ce moment, avec cette évolution, c'est vrai que ces zones de théâtre sont plus visibles. Et pourtant, tout est existé, tout est nécessaire. On a besoin aussi autant de collectivités rassemblées ensemble. Aussi, ce petit théâtre qui n'est peut-être pas autant visible jusqu'à aujourd'hui et qui devient visible parce qu'avec cette méthode-là, ils continuent plus que les autres. Non, mais je me dis, est-ce que c'est quelque chose de naturel, juste remarquer cette importance de biodiversité du théâtre qui est en bonne santé, peut-être. On n'est pas à la fin de faillite de théâtre. Donc, c'est juste ça que je voulais dire.
Peut-être que, comme tu dis, cette réduction du public, cette jauge un peu différente et sous forme varié, c'est un futur du théâtre possible et que c'est dans cette monde où les jauges maintenant elles sont compliquées à les remplir par loi et après par réalité. Enfin, parfois il y a une réduction de spectateurs qui est importante, de formes comme ça qui explorent une jauge différente, ça peut être une avenir aussi pour tout ce type de
d'expérimentation. Presque au contraire, désolée, mais c'est presque au contraire parce que les théâtres sont maintenant à sa manière différente. Donc, il y a une création, la méthode complètement diverse. Donc, c'est normal pour le moment, par cette évolution avec la crise, on voit plus ces zones de petits théâtres, mais c'est une des parties de multiplication des formes de théâtre aujourd'hui. En fait, c'est ce que je pense. Hein. Mais on a besoin autant que ce n'est pas parce que plus favorable ce genre de théâtre, mais c'est nécessaire autant que d'autres théâtres qui est aussi en forme classique.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si. C'est justement pour dire que je pense que c'est quelque chose qui fonctionne d'avant, puisque parmi tes trois propositions, il y en avait deux qui étaient précédentes à la crise et qui vont durer, quoi. C'est quelque chose à explorer davantage. C'était ce que je voulais dire.
Oui, merci.
Du coup, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut encore rajouter quelque chose. Certainement, il doit y avoir plein de choses qui ont resté dans vos têtes, vos esprits. Et on a quand même une petite pause avant d'enchaîner sur le suivant.
On va juste dire, en effet, comme tu l'as dit, que c'est la pause et qu'après, on termine ces deux journées avec une table ronde sur le thème du panorama qui va être facilité par Armelle Talbot.